Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission 3100 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de votre animateur Raphaël. Ce soir à l'émission, nous avons le privilège de recevoir Bernard Lemelin, mon directeur de recherche, et Xavier Larquin-Doucet, étudiant à la maîtrise en histoire. Tous les deux sont venus pour nous parler de la vie du 39e président des États-Unis, Jimmy Carter. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir Raphaël, bonsoir Bernard.
Oui, Xavier.
Étant professeur en histoire américaine à l'Université Laval, M. Lemelin poursuit des recherches en histoire politique et diplomatique des États-Unis au 20e siècle. Il s'intéresse particulièrement à la période Truman-Eisenhower. À travers les années, il a publié de nombreux articles sur des sujets tels que la doctrine Truman et le sentiment isolationniste aux États-Unis. De son côté, Xavier Larquin-Doucet travaille dans le cadre de son mémoire sur l'évolution des représentations de la Chine au sein des grandes revues américaines telles que Times, Newsweek et US News and World Report. Il a aussi produit une analyse approfondie des mémoires du président Jimmy Carter, personnage dont nous allons traiter aujourd'hui en leur compagnie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler chacun de votre intérêt pour Jimmy Carter, à commencer par Bernard?
Bien, je dirais trois choses, Raphaël. D'abord, c'est un personnage qui est assez singulier que ce 39e président des États-Unis. Je dirais simplement que c'est le premier président originaire du Sud profond, du Deep South, depuis Zachary Taylor, un président de la fin des années 1840 aux États-Unis. C'est aussi le président démocrate qui est perçu par plusieurs comme étant le président donc démocrate le plus conservateur depuis Grover Cleveland à la fin du 19e siècle. Alors donc, c'est un président qui n'est pas trivial, banal. Et j'ajouterais également, c'est un président aux nombreuses qualités humaines. C'est un homme affable, intelligent, discipliné, un homme honnête. D'ailleurs, l'un de ses slogans de campagne électorale en 1976, c'est « I will not lie », c'est ce qu'il dira au peuple américain. C'est aussi un homme simple. Et une belle illustration de cet état de fait consiste en le fait qu'après avoir prêté serment le 20 janvier 1977, eh bien, il va franchir à pied, non en limousine, avec sa femme Rosaline et sa fille, la distance séparant le Capitole de la Maison-Blanche. Et je terminerai simplement en mentionnant que c'est un président qui, à l'instar de Franklin Delano Roosevelt ou Barack Obama, un président qui a été confronté à une période de présidence extrêmement difficile. L'historien Richard Kirkendall le décrit Carter comme « unlucky president » dans la mesure où il va arriver après, dans le contexte de morosité liée à la guerre du Vietnam, au scandale du Watergate. Et ça, c'est sans parler des nombreux troubles économiques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc, un contexte très difficile, des défis nombreux auxquels est confronté Jimmy Carter.
Tout à fait, vous nous le vendez bien. Et vous, Xavier?
Moi, je dirais que tout m'intéresse chez ce président-là qui demeure assez méconnu du grand public. Mais si j'avais à faire quelques choix pour répondre succinctement à cette question-là, je dirais qu'il représentait, dans le contexte de la deuxième moitié des années 1970, dont on va avoir la chance de reparler, il représentait le renouveau qui s'imposait à Washington en étant tout de même capable d'incarner des valeurs qui sont chères aux Américains, comme la foi religieuse inébranlable, la détermination et une honnêteté qui parfois va être très désarmante puis qui va lui jouer quelques tours durant sa carrière politique. Or, ce qui a vraiment le plus attiré dans le personnage de Jimmy Carter, c'est le fait que c'est un homme qui m'apparaît un peu en avance sur son temps, comme le dit la célèbre expression. C'est un personnage simple, accessible, un vrai « decent man », comme le disent les Américains, et défendant encore aujourd'hui, à l'aube de ses 100 ans, des causes fortes telles que le droit de l'homme, l'éducation, la santé, la pauvreté et la lutte contre la ségrégation et le racisme aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
On connaît tous un peu Jimmy Carter pour son passage à la Maison-Blanche et aussi pour sa vie post-présidente. Parlez-moi d'abord un peu de lui, de ses origines. Il naît où et dans quel contexte?
Il est né le 1er octobre 1924 sous le nom de James Earl Carter Jr., un nom qu'il va presque jamais utiliser, dans la petite ville de Plains en Géorgie. Il a grandi dans la communauté d'Archery, non loin de la ville qu'il l'a vu naître. Ses ancêtres sont établis en sol américain depuis les années 1630 et en Géorgie depuis la Révolution américaine. Son père, James Earl Carter Sr., était fermier, cultivateur d'arachides et un homme d'affaires très travaillant, alors que sa mère, Lillian Gordy Carter, avait une formation d'infirmière, un métier qu'elle va exercer jusqu'au moment de sa première grossesse. Sa mère est notamment reconnue pour avoir défié les profondes divisions raciales de l'époque dans les années 20 en Géorgie, alors qu'elle offrait des conseils d'infirmière à des femmes noires. Carter a grandi dans un milieu modeste, dans une maison qui n'avait ni l'eau courante ni l'électricité. On raconte souvent qu'à l'âge de 10 ans, il vendait déjà des produits issus de la ferme familiale dans les villages environnants, puis il occupait le plus clair de son temps à écouter les parties de baseball et des discussions sur la politique sur un petit radio à batterie. Ses parents étaient dévoués à la religion alors qu'ils étaient membres de la Plains Baptist Church. le jeune Jimmy Carter assistait aux classes du dimanche de l'église, où son père y prenait parfois la parole, ce qui explique un peu sa foi religieuse inébranlable. Son éducation de niveau secondaire s'est faite à l'école Plains High School, une école réservée aux Blancs, alors que la plupart de la population de l'État, c'était majoritairement noire. Malgré la ségrégation très forte en Géorgie à cette époque, deux de ses amis d'enfance les plus proches étaient des Noirs, et c'est des adultes avec qui sa vie cadrait, étaient dans la ferme familiale, c'était beaucoup de gens noirs, donc un lien très proche avec cette communauté-là. Les années 1930, synonymes de la Grande Dépression, vont être particulièrement difficiles pour les régions rurales du Sud, mais ça va être épargné pour la ferme d'arachide de Carter qui va prospérer à cette époque-là, alors qu'elle emploie environ 200 travailleurs. Ces conditions favorables vont faire en sorte qu'en 1941, Jimmy Carter devient le premier à graduer du high school de sa famille. Il va poursuivre ses études à la Georgia Southwestern Junior College en ingénierie avant d'être accepté dans un programme particulier dans le même domaine au Georgia Institute of Technology. Ensuite, il va décider de joindre l'Académie navale d'Annapolis au Maryland où il va commencer ses études en 1943. Il faut dire que sa stature physique peu imposante et sa personnalité introvertie va détonner avec celle de ses compagnons. Et il va quand même terminer dans les meilleurs de sa classe en 1946, moment aussi où il va reprendre contact avec sa femme Rosalind, dont Bernard nous parlait tout à l'heure, une amie d'enfance, et ils vont se marier le 7 juillet 1946 dans son village natal de Plains. Pendant les années qui vont suivre, Carter va rejoindre la Navy pour travailler dans la division des sous-marins, une division qui est considérée très dangereuse. Ça va avoir entraîné beaucoup de déménagements à travers le pays, puis aussi la naissance de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Il va laisser sa marque dans la Navy en participant notamment au plan du sous-marin nucléaire de l'amiral Hyman Rickover, un homme qu'il va admirer. Si je pouvais juste me permettre une petite anecdote rapide pour voir un peu les valeurs de Carter. Une anecdote qui se déroule aux Bermudes concernant Carter, puis qui illustre son inébranlable défense des causes qui lui sont chères. Alors que des officiers britanniques vont offrir aux membres blancs de l'équipage du sous-marin une invitation à une soirée, Carter va convaincre tous les membres blancs de son équipage de refuser d'aller à cette soirée en guise de solidarité avec leurs compatriotes noirs qui, eux, n'avaient pas été invités. On sait qu'il y a vraiment une présence du Ku Klux Klan très forte dans cet État dans les années 1950, donc c'est un élément qui est assez important. Finalement, pour terminer un peu vers ce qui va le ramener éventuellement dans son village ensuite, lorsque son père, souffrant d'un cancer en 1953, va succomber à celui-ci, Carter va abandonner sa carrière dans la Navy et va retourner prendre le contrôle des Carter Farms avec sa femme. Il va devenir un personnage important de la communauté en s'impliquant dans les causes qui lui sont chères comme l'éducation, la santé et les bibliothèques. Il va aussi rester impliqué dans les débats ségrégationnistes du Sud en s'opposant à une organisation qui s'appelle le White Citizens Council qui va chercher à maintenir le statu quo de la ségrégation dans le Sud. Et on va dire anecdotiquement que Carter a été le seul citoyen blanc de la petite ville de Plains à s'opposer à la position du conseil municipal. Donc, c'est quelqu'un de valeur, comme on le voit.
Oui, tout à fait. On comprend un portrait aussi dès son jeune âge, en fait, et tout à travers ses expériences, que les valeurs sont pratiquement toujours importantes et le suivent dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est à la suite de son retour dans son village natal en Géorgie, que vous avez un peu évoqué, que Carter va amorcer sa carrière politique. Qu'est-ce qui l'incite à se lancer d'abord comme sénateur?
Il faut dire que la raison principale, c'est quand même son désir d'implication au sein de sa communauté. C'est ça qui va le pousser à se lancer dans la course pour un poste d'élu au Sénat de la Géorgie en 1962, où il va remporter son pari face à un homme d'affaires local bien connu, Homer Moore. Ensuite, 4 années plus tard, en 1966, il va tenter sa chance pour accéder au poste de gouverneur de l'État de la Géorgie, une course qui va malheureusement se solder par une cuisante défaite. Comme le dit le spécialiste historien Henry Graff, en 1966, Carter a vraiment vécu sa première grande défaite, puis ça l'a beaucoup affecté. Il s'est tourné un peu dans un état dépressif et il va se tourner vers la religion qu'il a appris avec ses parents lorsqu'il était jeune, pour devenir un peu plus convaincu qu'il était « born again », donc un célèbre terme de cette église baptiste. À sa deuxième tentative, maintenant avec une confiance renouvelée, il va accéder au poste de gouverneur de la Géorgie le 12 janvier 1971, devenant ainsi la 76e personne à occuper ce poste. Il va notamment attirer l'attention de toute la nation alors qu'il appelle à la fin de la ségrégation en augmentant la place offerte aux Noirs dans l'appareil gouvernemental de l'État par 25%. Et en martelant sa volonté, qui est toujours là, de réformer prison et éducation, pour ne nommer que ces deux dossiers-là.
Peu à peu, son intérêt pour la politique l'amène à se présenter aussi en 1976 pour la présidence. En tant qu'outsider, comment se déroule sa campagne?
En fait, il faut remonter à la campagne démocrate menée par George McGovern en 1972 pour vraiment retracer la genèse de son intérêt à se porter candidat aux primaires démocrates à la fin de l'année 1974. Voyant la campagne de McGovern, qui est un personnage relativement controversé d'une certaine façon, il va commencer à s'interroger sur la façon dont la prochaine élection devrait être menée pour que le parti puisse accéder à la Maison-Blanche. Le scandale du Watergate, révélé au grand jour par deux journalistes du Washington Post le 17 juin 1972, ainsi que l'échec tout récent des États-Unis au Vietnam, c'est vraiment deux éléments majeurs qui vont venir renforcer cette idée que le prochain président ne devrait pas provenir de la machine politique bien huilée de Washington pour l'élection de 1976. On peut dire que Carter voyait en lui-même une personne qui pouvait incarner ce changement. À la ligne de départ de la course, c'était probablement le candidat le moins connu des 10 qui aspirait à devenir le candidat démocrate pour la présidentielle de 1976 lorsqu'il va lancer sa campagne en 1974. Mais ça va devenir un avantage parce que sa campagne va prendre de l'ampleur, notamment avec des slogans populaires comme Bernard le disait tout à l'heure, « I'll never tell a lie » ou « I'll never avoid a controversial issue ». Son slogan de campagne, qui était « A leader for a change », a frappé fort pour l'électorat qui s'était senti vraiment bafoué par son propre gouvernement lors du scandale du Watergate.
Écoutons maintenant justement un court extrait de la chanson utilisée pour sa campagne électorale de 1976 intitulée « Why Not the Best ».
Young man speaking out just the other day, so I stopped to take a listen to what he had to say. He spoke straight and simple, by that I was impressed. He said, once and for all, why not the best? He said his name was Jimmy Carter and he was running for president. Then he laid out a plan of action that made a lot of sense. He talked about the government and how good it could be for you and me. Oh, that's the way it ought to be right now. Once for all, why not the best?
Comme on peut le constater, cet extrait nous montre bien le personnage unique qu'est Jimmy Carter. L'image qui a été cachée se veut très différente de celle des précédents candidats à la présidence des États-Unis. On parle d'un homme simple et accessible qui partage des valeurs proches des citoyens américains. En quoi ces descriptions ont-elles contribué à son succès?
Je dirais que c'est un apport qui est plus qu'essentiel dans le sens où c'est au caucus de l'Iowa que son étoile va vraiment commencer à briller dans cette course à l'investiture démocrate-là, en arborant son caractéristique sourire et son statut de négligé qui va devenir rapidement un avantage. C'est vraiment à ce moment-là que les Américains vont commencer à tendre l'oreille aux propositions originales de Jimmy Carter. Mais en raison de ses valeurs et certaines positions et les causes qu'il va embrasser, une question a toujours vraiment été demeurée sur les lèvres de tout le monde, c'est est-il vraiment un démocrate? Son idéologie est en effet très difficile à cerner. Libéral, conservateur, ce qui se rapproche le plus d'une réponse claire sur le sujet se trouve dans ses mémoires intitulées « Keeping Faith », où il s'est décrit comme étant « a fiscal conservative but quite liberal on such issues such as civil rights, environmental equality and helping people overcome handicaps to lead fruitful lives ». Les plus futés de l'histoire américaine vont reconnaître ici une description qui se rapproche étrangement de la façon dont le républicain Dwight D. Eisenhower décrivait justement cette dichotomie dans ses visions fiscales et sociales. Pour revenir à la campagne, il va remporter l'investiture démocrate et va choisir le sénateur Walter F. Mondale du Minnesota comme colistier. Opposé à Gerald Ford, qui avait pris le relais de Nixon dans le précédent mandat, il va l'emporter par 297 grands électeurs contre 241 grands électeurs à l'élection du 2 novembre 1976 contre Ford, un résultat beaucoup plus serré que ce qui avait été prédit au départ. Notons parmi les éléments qui vont rendre cette course-là un peu plus excitante, des commentaires houleux émis lors d'entrevues diverses. Ses propos tenus notamment dans une entrevue avec la revue Playboy, où il parlait d'infidélité et d'adultère, va faire couler beaucoup d'encre dans la sphère médiatique, surtout lorsqu'on considère son bagage religieux, alors qu'il va déclarer, entre autres, qu'il regarde beaucoup les femmes avec un certain désir, puis qu'il a déjà commis l'adultère dans sa tête, et c'est quelque chose que Dieu va lui pardonner et qu'il sait qu'il va faire. Donc, c'est des commentaires qui viennent un peu détonner avec sa personnalité qui est très religieuse. Fait intéressant pour clore sur cette victoire historique, comme le disait tout à l'heure Bernard, c'est le premier président élu provenant du Sud depuis la guerre de sécession et le premier outsider à accéder au pouvoir depuis l'élection de Woodrow Wilson.
Et si je puis me permettre, Raphaël, concernant cette élection qui est incidemment l'élection la plus serrée depuis celle de 1916, il y aura également des gaffes monumentales commises par son rival Ford lors de cette même campagne électorale de 1976. Ford, qui, dans l'un des débats télévisés, prétendra le plus sérieusement au monde. Il dira, concernant la situation en Europe de l'Est, il dira « There is no Soviet domination of Eastern Europe ». Et on s'accorde à dire que cette déclaration va lui faire perdre. Là. Mais effectivement, c'est une élection très serrée que celle de 1976.
Malgré un court passage à la Maison-Blanche, Jimmy Carter est surtout connu pour avoir eu une présidence particulièrement difficile. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui se passe sur la scène politique intérieure pendant ces années?
Alors oui, les dossiers qui vont accabler ce président sur la scène intérieure sont assez nombreux. On peut d'abord mentionner que Carter va hériter en 1977 du plus important déficit gouvernemental jusqu'alors de l'histoire américaine. Alors, on est dans la foulée, bien sûr, de la guerre du Vietnam, la Great Society. Alors, on parle de plus de 66 milliards de dollars là, en ce qui a trait donc à ce déficit-là au début de son mandat, là, au début de l'année 1977. On peut également mentionner le problème du chômage. Le chômage qui, au moment où il s'apprête à quitter la Maison-Blanche en 1980, on parle près de 8%. Des travailleurs américains donc, qui sont au chômage. Le chômage qui touche particulièrement les Afro-Américains et tous ces Américains qui n'appartiennent pas à la classe moyenne. Alors, le problème du chômage s'ajoute à celui du déficit. Mais, bien sûr, on doit ajouter deux problèmes internes qui sont extrêmement importants. D'abord, la crise de l'énergie. Une crise de l'énergie qui... s'était manifesté dès la fin des années Nixon avec le premier choc pétrolier, celui de 1973 dans la foulée de la guerre du Kippour au Moyen-Orient. Et ici mentionné concernant le dossier énergétique qui va, disons que Carter va prendre cette crise qui va absorber une part importante de son temps, mentionner que malgré des efforts de Nixon et Ford pour rendre la nation américaine plus indépendante sur le plan d'énergie, il faut savoir qu'au moment où Carter est président, le peuple américain est encore largement dépendant du pétrole étranger. C'est à peu près 50% là, du pétrole que les Américains doivent importer à la même époque. Et cette crise énergétique, donc, qui n'est pas étrangère aux événements de 1973, fera que Carter devra y aller de plusieurs mesures. Donc, pour résorber le problème, alors, entre autres, on va assister à la création en 1977 d'un ministère de l'énergie, d'un département de l'énergie, à la tête duquel Carter va placer un républicain, James Schlesinger, à la tête donc du ministère. Carter va imposer également des taxes sur l'essence, va vouloir rendre les Américains, va vouloir les inciter à laisser tomber leurs achats de grosses voitures, là, de grandes automobiles au profit de voitures moins qui dépensent moins. Alors, il y aura toute une série de mesures. Toujours est-il que la situation n'évoluera pas nécessairement pour le mieux dans la mesure où il fait appel à la bonne volonté du peuple américain, lequel peut porter à vouloir changer des habitudes. On va assister également dans la foulée à des longues files d'attente dans les stations-service de la nation. Ça va commencer, ce problème-là, plus sur la côte ouest, et ensuite ça va s'étendre un petit peu partout. Parce que la crainte de beaucoup d'Américains à la même époque, c'est des craintes de pénurie d'essence. Et le réflexe de plusieurs Américains américaines, ce sera de toujours garder la voiture avec le réservoir plein. D'où ces problèmes de file d'attente dans les stations-service, des problèmes qui vont donner lieu à beaucoup de tensions, parfois d'escarmouches. Et voilà, tout ça va influer sur la popularité de Carter. La popularité de Carter qui commence à partir de 1979 là, à baisser de manière assez importante. Mais lorsqu'on parle des problèmes internes, il faut bien sûr parler de l'inflation. L'inflation qui est sans doute le problème domestique le plus important auquel est confronté le président des États-Unis. Le problème de l'inflation, Le problème de l'inflation qui va s'accentuer à la fin des années 70. On rapporte qu'en 79 et en 1980, on va parler pour ces deux années de double-digit inflation, c'est-à-dire d'inflation avec un taux dans les deux chiffres, une inflation supérieure à 10 % en 79 et en 1980. Et ce problème de l'inflation, donc qui culmine à la fin des années 70, ne sera pas étranger aux événements qui ont cours à la même époque en Iran, à la suite du départ du Shah, le départ précipité du Shah d'Iran, le problème dont Xavier va nous parler un petit peu plus tard. Il faut simplement retenir que la production pétrolière en Iran va être interrompue pendant plus de 2 mois, et ça va se traduire par des coûts, hausse des coûts énergétiques aux États-Unis. Le prix du baril va passer de 12 $ à 20 $ assez rapidement. Et voilà donc une inflation qui est alimentée par beaucoup de facteurs, dont les événements qui ont cours en Iran à partir de 1979, pourrait-on dire. Alors, ce sont des dossiers, je dirais, majeurs, déficit budgétaire, chômage, crise énergétique, et vous ajoutez à cela l'inflation. Alors, un contexte qui n'a rien de facile pour le président démocrate.
Ah, tout à fait. Ces problèmes, bien qu'ils occupent une place importante, ne sont pas les seuls enjeux de sa présidence. En fait, c'est plutôt sur le plan de la politique étrangère que Carter va retenir le plus l'attention pendant son mandat, fondé principalement sur ce qu'il va appeler lui-même une politique des droits de l'homme. Comment Carter parvient-il à se distinguer de ses prédécesseurs? Parlez-nous concrètement de sa vision et de son application, notamment en Amérique du Sud.
Alors oui, dans le cas de la politique étrangère, il y a beaucoup de dossiers importants. Faut d'abord, avant de parler des human rights et de son application en Amérique latine, mentionner que c'est dans le domaine de la politique étrangère que Carter va surtout laisser sa marque. Il faut rappeler d'abord que son but suprême à Carter, c'est de redonner confiance aux Américains, les convaincre, les Américains, que des Vietnam ne se reproduiront plus. Et façon de restaurer la confiance dans l'esprit de Carter, bien, c'est d'abord de chercher à ouvrir les portes du tiers-monde à la diplomatie américaine. Alors, c'est dans ce contexte que Jimmy Carter, qui incidemment sera le premier président des États-Unis à visiter l'Afrique noire, c'est dans ce contexte que Carter va chercher à améliorer les relations avec plusieurs nations de l'Afrique noire, justement. Il va procéder à la nomination comme ambassadeur à l'ONU de Andrew Young. Andrew Young, un ami de Martin Luther King, un leader noir d'Atlanta. Andrew Young, qui ne tardera pas à préconiser des sanctions, entre autres, vis-à-vis de l'Amérique, en fait, de l'Afrique du Sud, le régime d'apartheid. Alors donc, l'ouverture des portes du tiers-monde à la diplomatie américaine, c'en est un moyen pour Carter de restaurer la confiance. De même, cette volonté qu'il a de freiner la course aux armements. Et ce qui m'amène à mentionner rapidement ici qu'à la suite d'une rencontre à Vienne en juin 1979, eh bien, Carter va signer avec son homologue Léonid Brejnev, le soviétique Brejnev, il va signer les accords SALT II sur la limitation des armements stratégiques. Les accords SALT II, je ne veux pas entrer dans les détails, mais retenez que ce sont des accords qui sont un peu dans la même lignée que les accords SALT I de 1972. On va chercher ici à imposer des limites à l'Union soviétique et aux États-Unis, mais à d'autres types de missiles principalement. Et une fois ce traité conclu avec son homologue soviétique, eh bien, Carter va le soumettre, le traité SALT II, au Sénat. Ça va susciter, cet accord SALT II, de nombreuses récriminations aux États-Unis. Les conservateurs, tels le sénateur Jesse Helms de Caroline du Nord, vont estimer que les Américains font beaucoup trop de concessions aux Soviétiques avec ces mêmes accords SALT II, alors que des sénateurs libéraux, pour la plupart démocrates, comme Frank Church ou George McGovern à la même époque, vont trouver que SALT II ne va pas assez loin. Alors, beaucoup de débats suscités par cet accord SALT II, mais ce qui va donner un coup fatal aux accords en question, ce sera l'invasion soviétique de l'Afghanistan en décembre 1979. Alors, cette invasion soviétique de l'Afghanistan, la fin 79, va susciter, générer de vives réactions aux États-Unis. Le président Carter y verra la plus sérieuse menace pesant sur la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans la foulée de cette invasion soviétique, Carter va retirer les accords SALT du Sénat va adopter une série de mesures contre l'Union soviétique, le boycott des Jeux olympiques de Moscou à l'été 80, suspension des exportations de blé et un réarmement également américain qui va s'amorcer à l'époque Carter. On pense souvent que ça vient avec Reagan, mais ça va déjà s'amorcer dans la foulée de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et mentionner qu'au début de l'année 1980, Carter va y aller de ce qu'on appellera la doctrine Carter. La doctrine Carter de janvier 80, qui est la plus vive dénonciation présidentielle d'un comportement soviétique depuis l'époque de la doctrine Truman. Quel est le sens à donner à la doctrine Carter? Eh bien, les Américains s'engagent dorénavant à défendre concrètement la région du Golfe Persique. Et on peut dire qu'en 79-80, on assiste à la fin de la détente aux États-Unis. Alors, voilà. Donc, c'était ce petit préambule que je voulais pour bien comprendre cette politique étrangère de Carter et de dire qu'en outre, et là je reviens sur la situation de Human Rights, eh bien Carter va se faire connaître pour son rejet de la real politique de Nixon. C'est-à-dire que cette politique de Nixon, Kissinger, qui visait à faire reposer la diplomatie davantage sur des intérêts que sur des principes, en fait, Carter va prôner un certain retour à l'idéalisme en politique étrangère. Concrètement, il va se faire le défenseur à l'échelle internationale des droits de l'homme, le défenseur des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il va réclamer la fin des arrestations arbitraires, la fin de la torture, les procès truqués, une politique des human rights qui aura peu d'effets sur les pays communistes, mais qui aura des effets dans d'autres dossiers. Et certains signes de l'attachement de Carter à la politique des human rights, c'est que le soutien au Chili de Pinochet, le soutien américain au Chili de Pinochet va s'estomper dans cette même foulée. Le soutien américain au Nicaragua, le Nicaragua dirigé par le Somoza à la même époque, ça va d'ailleurs contribuer à la chute de Somoza en 1979. Il y a son secrétaire d'État Cyrus Vance qui va y aller de dénonciation face au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Par contre, ce qui est intéressant de conclure concernant les human rights, c'est que cette préoccupation des États-Unis pour les human rights dans des pays hautement important pour la sécurité américaine, telle Philippines, Corée du Sud, eh bien, cette préoccupation va être moins évidente.
Effectivement, on comprend justement que c'est au fondement, en fait, de sa politique, les droits humains. Nous en sommes déjà à notre première pause musicale. Pour l'occasion, nous avons pensé vous offrir un petit retour dans les années 1970 avec la chanson Piano Man du célèbre chanteur Billy Joel. Bonne écoute! Nous sommes de retour sur les ondes de Chiz 94.3 pour poursuivre notre émission sur Jimmy Carter avec nos invités Bernard Lemelin et Xavier Larkin-Doucet. Nous avons parlé un peu plus tôt à l'émission de sa politique étrangère en Amérique du Sud. Attardons-nous maintenant un peu plus à l'un de ses plus grands succès, les accords de Camp David. Bernard, pouvez-vous nous en parler?
Alors oui, les accords de Camp David de 79, considérés effectivement comme le plus grand succès de Carter en politique étrangère. Carter qui confiera dans ses mémoires auxquelles a fait allusion Xavier plus tôt, les mémoires Keeping Faith, là, rédigées, en fait publiées au début des années 80, il dira Carter du Moyen-Orient qu'il s'agit du dossier de politique étrangère où il a mis d'ailleurs le plus d'énergie. Alors oui, les accords de Camp David, peut-être rappeler dans un premier temps de dire que malgré les efforts de Kissinger au début des années 70, mais ça va plutôt mal à l'époque entre Israël et l'Égypte. Or, Carter, en tant que président, Carter qui incidemment avait déjà visité Israël alors qu'il était gouverneur de Géorgie, il avait visité Israël au printemps 73, eh bien Carter va réaliser à titre de président tous les dangers stratégiques pouvant découler d'une instabilité dans la région du Moyen-Orient. De plus, ses croyances religieuses font qu'il ne peut qu'éprouver un intérêt particulier envers ses anciennes terres bibliques, ce qu'il désigne dans ses mémoires comme étant the land of the Bible. Eh bien, puis lorsque le président égyptien Anwar el-Sadat étonne l'opinion internationale en décidant d'aller en Israël en novembre 1977 pour y rencontrer le premier ministre Menachem Begin, eh bien Carter y voit un signe d'ouverture. C'est alors que quelques mois plus tard, soit en septembre 1978, à l'invitation du président américain, eh bien que Sadat, le leader égyptien, et Menachem Begin, le premier ministre israélien, vont se rencontrer à Camp David, la retraite présidentielle qui se trouve au Maryland. Et après 13 jours d'intenses négociations, il va en ressortir un traité de paix préliminaire. Puis, à la suite de quelques ajustements subséquents, les deux leaders, Sadat et Begin, vont signer un traité de paix. Quelques mois plus tard, ils vont signer un traité de paix formel à la Maison-Blanche le 26 mars 1979. Alors, quel est le sens que l'on doit donner à ce traité de paix historique de mars 1979? Eh bien, de dire que bien que ce traité soit limité, que ce traité ne signifie en rien le règlement de l'ensemble de la question épineuse du Moyen-Orient, de dire que le problème palestinien va perdurer, eh bien, demeure pour moi que ce traité de paix constitue ce que plusieurs auteurs désigneront de « high point of the Carter Presidency », le principal fait d'arme de politique étrangère. En fait, le traité de mars 1979 prévoit, entre autres, l'évacuation de la péninsule du Sinaï par Israël. Ce territoire si cher aux Égyptiens, ce territoire obtenu par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. En quelque sorte, on peut dire de ces accords de Camp David qu'ils vont paver la voie à la fin officielle, la fin formelle de l'état de guerre qui existait entre Égypte et Israël depuis l'automne 1973. Et fait à souligner, pour la première fois de sa courte histoire, eh bien, Israël peut dire qu'elle est en paix avec l'un de ses voisins arabes, suivant donc le traité de mars 1979.
Pendant son mandat, Carter a également travaillé à normaliser les relations entre les États-Unis et la Chine. Brièvement, pouvez-vous nous parler un peu de ce rapprochement?
Oui, alors dans le cas du dossier de la Chine, de dire que Carter va poursuivre ici l'initiative de ses prédécesseurs. En fait, il faut savoir que, et là ici, bien sûr, je fais référence à l'équipe Nixon-Kissinger qui s'était fait connaître pour des initiatives qui s'inscrivaient dans leur politique de détente au début des années 70. Il y avait eu un voyage célèbre de Nixon entre autres à Pékin en février 72. Alors, de dire que Carter, suivant le décès de Mao Tse-tung en 1976, eh bien, Carter va chercher à renforcer les liens. Il faut dire que lorsque le successeur de Mao, Deng Xiaoping, constatant certains changements dans la politique américaine vis-à-vis de Taïwan, eh bien, lorsque Deng Xiaoping, le successeur de Mao, va exprimer un intérêt, lui aussi, avoir des liens plus proches avec les États-Unis, eh bien, Carter va profiter de cette ouverture pour restaurer les pleines relations diplomatiques avec la Chine populaire, avec la Chine rouge, le 1er janvier 1979. Et en cela, ça permettra finalement, il y aura des possibilités d'échanges culturels, d'échanges commerciaux à la suite de cette restauration des pleins rapports diplomatiques entre Washington et Beijing à la même époque. Alors voilà, donc ça s'inscrivait un peu dans la foulée des efforts entrepris par les prédécesseurs de Carter à la Maison-Blanche. Et on peut également mentionner que Carter va poursuivre également l'initiative de ses prédécesseurs concernant un tout autre dossier de politique étrangère qui est Panama. Je rappelle que dans le cas de Panama, qu'en 1903, donc au tout début du 20e siècle, il y avait un traité qui avait été conclu à la même époque et qui faisait de ce pays, Panama, un véritable protectorat américain. Chose qui n'avait pas vraiment été acceptée, bien digérée par le peuple panaméen. Toujours est-il que suivant des émeutes anti-américaines en 1964, à l'époque où Lyndon Johnson était président des États-Unis, eh bien, suivant ces émeutes anti-américaines à Panama en 64, eh bien, les administrations américaines qui vont se succéder à Washington vont chercher à trouver des manières d'assainir les rapports avec Panama. Et tout cela va culminer, si vous voulez, avec la présidence de Jimmy Carter. C'est ainsi que Carter va réussir, à la suite de nombreux efforts, à y aller de négociations qui vont permettre, ces négociations avec Panama, la ratification de deux traités de 1978, des traités de 1978 qui auront pour effet de transférer la zone du canal de Panama et le canal de Panama en tant que tel au peuple panaméen avant... d'ici le 31 décembre 1999. Alors, c'est ce qui va ressortir de ces deux traités de 1978. Et des traités des traités que Carter aura l'obligation de soumettre au Sénat des États-Unis, la Chambre haute, et des traités qui vont être dénoncés vertement, notamment par des conservateurs. Ronald Reagan, entre autres, va être l'un de ceux qui n'acceptent pas que les Américains restituent la zone du canal de Panama et le canal en tant que tel au peuple panaméen. On y voit, sur le plan de la stratégie pour les conservateurs, ce n'est pas indiqué. Alors, des organisations de vétérans aux États-Unis vont se mêler au débat. La John Birch Society va également dénoncer cette restitution du canal, de la zone du canal. On trouve que ce n'est pas stratégique non plus sur le plan commercial. Et ces conservateurs ajouteront même que le leader panaméen à la même époque, le général Torrijos, on va le dépeindre comme un apprenti dictateur lié à Castro. Alors, de restituer cette zone stratégique au peuple panaméen, alors il y aura de multiples dénonciations. Mais Carter, dans l'un de ses rares succès au Congrès, va finir par obtenir l'assentiment au Sénat, mais par un vote très serré. Il s'en est fallu peu pour que ces traités de 1978 soient rejetés. Les traités de 1978 qui vont en quelque sorte abroger le traité de 1903 dont j'ai parlé plus tôt. Et ces traités concernant Panama, bien sûr, auront pour effet de contribuer à l'amélioration de l'image américaine en Amérique latine.
C'est quand même un bon succès, souvent, qu'on oublie de la présidence de Carter, qui passe peut-être au deuxième plan, voire au troisième, après la Chine et les accords de Camp David, entre autres. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir souligné, justement, parce que, pour certains, je pense que le Panama n'est même pas un dossier qui nous vient en tête lorsqu'on parle de Carter. Autrement, la crise des otages américains aussi est un sujet assez important de sa présidence. En fait, c'est peut-être même l'un des moments les plus mémorables de sa présidence. Elle marque un changement drastique dans sa façon d'appliquer sa politique étrangère, en plus d'avoir de lourdes conséquences sur ses chances de réélection. Xavier, pouvez-vous nous raconter un peu le récit des événements et nous expliquer en quoi cette situation est si particulière?
Résumer la relation américano-iranienne, et c'est pas une mince tâche, mais je vais tenter de faire mon mieux pour tout le monde. On peut dire que la relation prend véritablement son envol après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide où les modèles économiques, capitalistes et communistes se confrontent. Le 19 août 1953, les États-Unis vont adopter une politique de soutien complet au régime du Shah d'Iran, donc on a fait brièvement allusion tout à l'heure, qui souhaite, lui, une modernisation de son pays ainsi qu'une libéralisation de l'économie iranienne au bénéfice des entreprises étrangères, principalement américaines. Cette politique d'appui inconditionnel-là va avoir, à ce dictateur iranien, va chercher à atteindre deux buts principaux. Le premier objectif, c'est l'acquisition de parts pour les compagnies américaines dans l'industrie pétrolière iranienne, cette dernière qui est nationalisée en 1954 à la suite d'une aide financière colossale américaine de 110 millions de dollars au gouvernement iranien qui vient briser le monopole de l'Anglo-Iranian Oil Company. Les États-Unis vont obtenir environ 40% des parts de cet ancien monopole-là, donc ils s'accaparent beaucoup de pouvoir sur la ressource. Le second objectif, ça va revêtir un aspect davantage politique, contrer la possibilité de l'implication du communisme soviétique dans le mouvement populaire en Iran, parce qu'il faut rappeler qu'une révolution iranienne se tramait déjà à ce moment-là et qui a été écrasée par le soutien au Shah d'Iran par les États-Unis. C'est cet affrontement des modèles capitalistes et communistes-là qui va expliquer l'investissement massif américain dans le régime du Shah d'Iran pour assurer son ascension au pouvoir et au profit de la menace qui plane, comme je le disais. Ainsi, c'est à ce moment-là que, jusqu'en 1978, à la chute du régime dictatorial du Shah, une année avant la prise en otage de l'ambassade américaine de Téhéran, que l'alliance entre les États-Unis et l'Iran va être scellée dans un esprit de soutien indéfectible. Évidemment, il faut parler de la chute du régime pour pouvoir en arriver à la crise des otages. Le retour d'exil de l'ayatollah Khomeini fait éclater au printemps 1978 en Iran de grandes émeutes contre le régime en place. À ce moment, Carter et ses conseillers vont considérer ces manifestations comme pas très menaçantes envers le gouvernement du Shah, car il possède des moyens financiers et d'armes supérieurs à ceux des révolutionnaires. Par contre, des émeutes plus significatives éclatent à l'automne 1978, ce qui va faire changer d'idée de l'administration Carter, et ce, malgré des tentatives de libéralisation politique désespérées du Shah qui va tenter de un peu de devenir au goût du jour, mais c'est des périodes qui c'est des éléments qui vont pas fonctionner. On va voir aussi le Shah qui va avoir parfois des périodes de grande confiance à dire à l'administration américaine qu'il a le contrôle de la situation, et d'autres moments où il va être complètement dans une période de dépression et dire qu'il a pas aucun contrôle sur son pays. L'explication pour cette attitude changeante, qui va être inconnue de l'administration américaine à ce moment précis, c'est les traitements qu'il recevait pour son lymphome, donc un cancer, et ce qui va être aussi éventuellement sa principale cause de son entrée en sol américain, dont on va pouvoir reparler. Et ces traitements-là vont affecter beaucoup son attitude émotionnelle, donc il va être très instable dans ses décisions. Devant l'inévitable chute du Shah d'Iran, qui va officialiser la perte du seul allié des États-Unis au Moyen-Orient, Carter va vouloir arriver à un compromis avec le régime révolutionnaire d'Iran pour tenter de un peu sauver les meubles. Toutefois, rien va n'y faire, puis la chute du Shah va être officialisée lors de son départ de l'Iran au début du mois de janvier 1979. Il est évident que pour les historiens, l'administration Carter, quand elle va permettre au Shah d'Iran d'entrer en sol américain le 22 octobre 1979 pour qu'il puisse recevoir des soins pour son lymphome, bien ça va créer une suspicion extrêmement élevée auprès des Iraniens pro-révolutionnaires, ce qui va mener éventuellement à la prise de l'ambassade américaine de Téhéran par les étudiants pro-révolutionnaires le 4 novembre 1979. Deux jours après cette prise en otage, la première rencontre du National Security Council, le NSC, sur la prise des otages américains en Iran va avoir lieu. C'est une crise qui va marquer profondément la population. Carter va chercher par tous les moyens de régler ce problème-là pour espérer assurer sa pérennité en tant que président américain. Il va donc s'impliquer personnellement dans la recherche d'une façon de résoudre la crise sans faire de victimes parmi les otages qui sont au nombre de 53 dans cette enceinte-là. Au départ, la Maison-Blanche était convaincue que les militants iraniens n'avaient nullement l'intention de continuer d'investir à long terme l'ambassade américaine. Mais devant une impasse qui va persister jusqu'au printemps 1980 et des négociations qui vont être infructueuses avec le régime de Khomeini, Jimmy Carter va prendre la décision de renoncer à ce qu'on a parlé tout à l'heure, qui est sa politique extérieure axée sur la diplomatie et les human rights, pour lancer une mission de sauvetage militarisé pour libérer les otages. Cette décision va, entre autres, créer une profonde scission au sein de l'administration Carter, menant notamment à la démission du secrétaire d'État Cyrus Vance, qui était vivement opposé à cette avenue un peu plus agressive. L'opération de secours, qui avait été surnommée Eagle Claw, va être lancée le 24 avril 1980 et sera qualifiée par bien des historiens comme le plus grand désastre de la présidence de Jimmy Carter, alors que 8 militaires perdent la vie dans une collision aérienne avant même d'arriver en Iran, dans le désert, dans la zone du Desert One. C'est une mission qui est catastrophique, puis le président, par contre, ne va pas chercher à se défiler devant la nation américaine. Plutôt, il va assumer l'entière responsabilité de la mission et affirme que son administration va continuer à examiner toutes les options possibles pour mettre fin à la crise des otages. Toutefois, maintenant que l'administration Carter se retrouve sans véritable politique extérieure précise envers l'Iran et sans stratégie pour procéder à la libération des otages, on va voir un certain flottement à ce niveau-là. La démission de Vance va aussi créer un poste libre pour Edmund Muskie, qui est choisi pour lui succéder. C'est un sénateur du Maine. Malgré ce changement de garde au département d'État et un retour à une approche plus de négociation, le régime de l'Ayatollah Khomeini ne bronche pas, et ce n'est que le 20 janvier 1981, 444 jours après le début de la prise d'otage, et de facto le jour même de l'entrée en fonction du nouveau président Ronald Reagan, que les 53 Américains confinés dans l'ambassade américaine de Téhéran sont finalement libérés par le mouvement révolutionnaire.
On en a parlé un peu, Xavier, mais devant cette impasse, ça arrive la campagne présidentielle de 1980 opposant Jimmy Carter à Ronald Reagan. On comprend donc qu'il y a comme un changement de présidence qui s'opère en même temps que la crise des otages en Iran. Comment se passe cette élection et en quoi cet événement en a-t-il influencé le résultat? Je laisse la parole à Bernard.
Alors oui, l'élection de 80, là, donc avec en toile de fond la crise des otages, cet épineux dossier. Et à cela, bien sûr, on doit... On doit ajouter le climat inflationniste qui est toujours bien présent, le climat de crise d'énergie. Alors, de nombreux problèmes là, qui assaillent le nouveau président. Le président Carter qui, soit dit en passant, en juin 80, avant même la convention du Parti démocrate, en juin 80, dont le taux de popularité a atteint ses plus bas, en fait, ses plus bas sommets. Là, Carter considéré comme avec des taux d'approbation vraiment très faibles. On rapporte que quelques mois plus tard, au mois d'août, seulement 21% des Américains endossent la manière dont Carter gère le pays et 21% d'approbation comme taux d'approbation d'un président. Dites-vous que c'est encore plus bas que le taux d'approbation de Nixon en 1974 dans le contexte où on voyait venir la fin de sa présidence. Et c'est encore plus bas, 21%, que Truman en 1951. Alors, ce qui n'est pas peu dire. Alors, voilà la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi les démocrates vont faire confiance à Carter en 80 devant justement toutes ces accusations qu'on lui lance d'être un leader faible, qui vacille, qui ne réussit pas à assumer un leadership là, constructif là, pour faire face aux nombreux problèmes. Il faut savoir qu'il y avait des récriminations au sein du Parti démocrate qui venaient, entre autres, l'ancien gouverneur de Californie. En fait, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, mais surtout Edward Kennedy, le sénateur du Massachusetts, dont certains disaient qu'il pouvait devenir le porte-étendard des démocrates en vue de l'élection de 1980. Ce qui, par contre, va jouer contre Edward Kennedy, le sénateur libéral, c'est, je vous dirais, le fameux incident qui s'était produit en 1969 là, à Chappaquiddick. Là. Ça n'a pas été oublié par la population américaine. Le scandale, entre guillemets, l'incident là, n'a pas été oublié. Et pour cette raison principale, les Américains vont comme reconduire Carter. Carter, dont on dit qu'il bénéficie du soutien indéfectible des syndicats. Et Carter, dont on est convaincu qu'il pourrait remporter les États du Sud, comme ça avait été le cas en 76. On est convaincu que Carter demeure, malgré son impopularité, un candidat qu'il faut reconduire. On croit qu'il va faire des percées dans le Sud. Et le résultat de l'élection de 80 va montrer qu'outre la Géorgie, il n'y en aura pas de percée démocrate à l'élection de 80. Mais toujours est-il que voilà, Carter est attaqué de toutes parts, de tous côtés. On lui fait néanmoins confiance. Mais voilà, avec les taux d'inflation au début des années 80, le chômage à près de 8%, la crise des otages, eh bien, ça n'augure rien de bon pour lui. D'autant que son rival, le républicain Ronald Reagan, l'ancien acteur, l'ancien gouverneur de Californie, promet de revenir aux valeurs traditionnelles des États-Unis. Reagan, qui va dénoncer les programmes d'assistance sociale du Parti démocrate, va également reprocher aux démocrates leur négligence en matière de défense, la conduite lors de la crise en fait, qui oppose États-Unis à l'Iran. À noter que lors de cette campagne électorale de 80, il y a un candidat de tiers parti qui a pour nom John Anderson de l'Illinois. On le dépeint comme un républicain libéral. Et on s'accorde à dire que ce John Anderson va enlever plus de voix à Carter qu'à Ronald Reagan. Toujours est-il que lors de la campagne, il y a bien sûr des débats télévisés. Et dans le débat de la toute fin du mois d'octobre 80, eh bien, va survenir un événement là, qui va, selon plusieurs spécialistes, vont faire pencher définitivement la balance en faveur de Reagan. Eh bien, lors de ce dernier débat télévisé de la fin octobre, Reagan, confiant, souriant, va réussir à contrer les accusations d'extrémisme lancées par Carter à son endroit. Et il en viendra, Reagan, à la toute fin du débat, à poser cette question aux gens qui donc sont arrivés devant leur petit écran. Il va poser la question lors de la fin du débat. Il demandera aux Américains « Are you better off now than you were 4 years ago? » Êtes-vous dans une meilleure situation qu'il y a 4 ans? C'est la question qu'il va lancer. Et on s'accorde à dire que cette interrogation lancée par Reagan va faire réfléchir un bon nombre d'Américains. Et toujours est-il que cette élection, eh bien, ne sera pas du tout serrée, contrairement à celle de 76. où on avait au vote électoral, Xavier l'a mentionné, 297 contre 240 voix électorales. Vote électoraux. Dans le cas de novembre 1980, Reagan, les Républicains vont l'emporter dans 44 États, comparativement à 6 pour Carter, les démocrates. Au chapitre du vote électoral, on parle de 489 votes électoraux contre 49, donc en faveur des Républicains. John Anderson n'aura aucun vote électoral, bien qu'il va faire une performance quand même assez intéressante. Et j'ajouterais pour conclure que pour la toute première fois depuis 1952, le Sénat des États-Unis va être sous contrôle des Républicains. Alors, on doit le souligner. Alors, l'élection de 80 qui marque une répudiation, bien sûr, de Jimmy Carter, mais qui marque également un réalignement politique. Les Républicains vont faire des gains importants au Sud et dans la région de l'Ouest. Alors, je m'arrête.
Oui, parlons maintenant un peu de sa post-présidence avec vous, Xavier. On dit souvent de Carter qu'il est l'un des meilleurs ex-présidents de l'histoire américaine. D'où cela provient-il et pourquoi lui attribue-t-on ce statut?
En effet, on aurait pu faire une émission juste sur cette question-là, mais Jimmy Carter a certainement eu, en effet, une post-présidence particulièrement réussie, et ce, sur plusieurs fronts. Mais parlons d'abord un peu d'historiographie. Tout d'abord, de dire que les premiers ouvrages qui vont avoir été écrits sur l'ex-président l'ont été par des journalistes au début des années 1980. Dès la fin des années Reagan, donc à la fin des années 80, la carrière politique de Jimmy Carter va être soumise à ce qu'on appelle dans le milieu de l'historiographie les trois R, le Reviewing, Revising et Rethinking of the Past. Malgré la publication de ses mémoires en 1982, dont on parlait tout à l'heure, Bernard et moi-même, quand je l'ai évoqué plus tôt, en 1982, l'aura énigmatique de Jimmy Carter va toujours demeurer. C'est quelqu'un qui nous semble un petit peu difficile à cerner. À l'aube de la décennie 1990, les premiers ouvrages d'historiens vont commencer à faire leur apparition. On va avoir le réputé spécialiste Burton Kaufman comme figure de proue d'une historiographie qu'on va dite traditionnaliste. Il va être dépeint comme étant le seul véritable responsable des échecs de son mandat présidentiel. On va dire que c'était une mediocre presidency and that much of the reason for this was his own doing. Donc on va vraiment rejeter un grand blâme sur lui. Cette affirmation qui est lourde de sens va se voir bouleversée par le récit historiographique va se voir bouleversé par des historiens qui vont parler d'un élément qui avait échappé à Kaufman, c'est son exemplaire carrière post-présidentielle. On peut dire que sa feuille de route après la Maison-Blanche a été vraiment l'élément déclencheur dans ce revirement de l'historiographie et aussi de la façon dont il est perçu en général. Il va avoir une fondation du Carter Center en 1982 pour le développement de systèmes santé basés sur la communauté en Afrique et en Amérique latine, deux régions dans lesquelles il a eu beaucoup à faire en tant que président, supervision des élections dans les pays où la démocratie est chancelante, implication dans l'organisme Habitat for Humanity qui aide les personnes dans le besoin en leur construisant des maisons habitables, etc. S'il n'est pas rare qu'un ex-président va décider de s'impliquer dans des causes après son mandat, Carter, aux yeux des Américains dans les années 1990, faisait bande à part. Au sortir des années Reagan à la fin des années 1980, la situation qui prévalait lorsque Carter a pris le pouvoir n'est plus vraiment là. Le scandale du Watergate et la guerre de Vietnam sont un lointain souvenir. Pour la majorité des Américains et des historiens, l'interlude de la présidence de Jimmy Carter entre les deux présidents républicains Ford et Reagan n'apparaît plus désormais comme une série d'échecs, mais plutôt comme une présidence qui a été truffée d'éléments malchanceux. Tel que le rapporte éloquemment l'historien Douglas Brinkley, Jimmy Carter se contentait pas seulement d'évoquer les problématiques structurelles comme bien d'autres personnalités politiques l'avaient fait auparavant, il passait à l'action de manière on ne peut plus concrète. Il disait ceci, « Carter ne faisait pas que parler des valeurs familiales comme Reagan, il les incarnait. Il ne se plaignait pas des sans-abri, il leur construisait des maisons à travers l'organisme Habitat for Humanity. Il ne changeait pas de chaîne lorsque confronté à des images de Nigériens aux prises avec la famille. Il a créé un programme d'agriculture en Afrique avec le récipiendaire du prix Nobel de la paix de 1970 qui a permis d'augmenter le rendement des champs de plus de 500% dans cette région. » Cependant, pour conclure, on pourrait dire que l'élément qui va faire de lui le meilleur ex-président de l'histoire aux yeux de nombreux politologues et historiens, c'est lorsqu'il va se voir décerner le prix prestigieux du Nobel de la paix en 2002. Il est décoré de cette distinction-là pour son aide à avoir désamorcé les tensions nucléaires entre la Corée du Nord et du Sud et pour avoir empêché une intervention américaine en Haïti. Ce prix, qui va venir alimenter une tendance historiographique qui est déjà changeante, va mener même l'historien Kaufman, qui était tout à l'heure évoqué comme celui qui décrivait sa présidence comme étant médiocre, à venir un peu retrouver un nouvel aspect de malchance dans ses explications. Donc, même lui va changer son fusil d'épaule, notamment dans le dossier de l'économie et de la crise des otages. Pour terminer, peut-être un petit bref mot d'actualité sur la situation actuelle de Jimmy Carter. À 97 ans maintenant, survivant de 3 cancers et plus ancien ex-président depuis le 22 mars, détrônant ainsi George... 22 mars 2019, pardon, détrônant ainsi George W. Bush père. Cet homme de fer a été forcé tout récemment à réduire ses activités. Lui qui continuait toujours jusqu'à là, pas très longtemps de faire des enseignements à l'église baptiste de son village de Plains. Ça a donc été un homme... toute sa vie, un homme de valeur, une véritable définition d'un homme foncièrement droit, un vrai « decent man » qui a toujours fait avancer les causes qu'il chérissait.
C'est donc ce qui met fin à notre émission de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci également à nos invités Bernard Lemelin et Xavier Larkin-Doucet pour nous avoir fait découvrir et permis de mieux comprendre Jimmy Carter. De plus, si vous souhaitez partager ou réécouter notre émission, vous pouvez le faire désormais sur nos plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Spotify. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page Facebook pour commenter, réagir et suivre nos toutes dernières émissions. Sur ce, c'était Raphaël Lévesque à l'animation et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci encore de votre écoute et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.